Chapitre 41. Le sacrifice. Anne écrivait ce qui suit. Glasgow, 5 décembre. Cher monsieur Brigworth, il y a près de 3 semaines, j'ai essayé de vous écrire de cette ville. J'ai été saisie par un mal soudain pendant que j'écrivais ma lettre et, depuis ce temps, je suis restée au lit dans un état désespéré. J'ai vu de bien près la mort à ce qu'on m'a dit. Cependant, j'ai pu me lever quelques instants avant-hier et hier. Aujourd'hui, j'ai fait un progrès plus grand vers le rétablissement. Je puis tenir ma plume et rassembler mes idées. Le premier usage que je fais de mes forces est de vous écrire ces lignes. Je vais, autant que je puis le savoir, vous surprendre beaucoup et peut-être vous alarmer. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette cruelle nouvelle, il faut que cela soit dit. Ne sachant comment présenter ce que j'ai maintenant à vous apprendre, je ne trouve pas de meilleur moyen que celui-ci, c'est de vous prier instamment de vous reporter par le souvenir à certains jours. Oh, nous aurons tous deux de tristes raisons pour regretter ce jour où Geoffrey Delamayn vous envoya vers moi à l'auberge de Craig Fernie. Peut-être ne vous rappellerez-vous pas, car cela ne fit aucune impression sur vous, alors que j'éprouvais et que j'exprimais une grande répugnance à passer pour votre femme devant les gens de l'auberge. Cette feinte pourtant était nécessaire pour qu'il me fût permis de rester à Craig Fernie. Je le savais, mais je reculais devant cette nécessité. Il m'était impossible de vous démentir sans attirer sur moi les plus pénibles conséquences et sans courir le risque de provoquer un scandale qui pouvait arriver aux oreilles de Blanche. Je savais cela aussi, mais ma conscience persistait à m'adresser des reproches. C'était un pressentiment. J'ignorais le danger imminent auquel vous vous exposiez, autrement j'aurais parlé, quoi qu'il en pût arriver. Je devinais que vous n'agissiez pas sagement, rien de plus. Aussi vrai que j'aime et que je vénère la mémoire de ma mère, aussi vrai que je crois dans la miséricorde de Dieu, cela est la vérité. Vous avez quitté l'auberge le lendemain matin et nous ne nous sommes pas revus depuis. Peu de jours après votre départ et livré à moi-même, mon anxiété me devint de plus en plus impossible à supporter. Je me rendis secrètement à Windygates et j'eus un entretien avec Blanche. Elle s'absenta quelques moments de la pièce dans laquelle nous nous étions rencontrés. Dans cet intervalle, je fis Geoffrey Delamayn pour la première fois depuis que j'avais quitté la fête donnée par Lady Lundy. Il me traita comme si j'étais une étrangère pour lui. Il me dit qu'il avait découvert ce qui s'était passé entre nous à l'auberge. Il me dit qu'il avait pris l'avis d'un homme de loi. « Oh, Mr. Brigworth, comment finir? Comment écrire les mots qu'il prononça ensuite? Il le faut cependant, il le faut. Il me refusa en face de m'épouser. Il me dit que j'étais déjà mariée. Il me dit que j'étais déjà votre femme. » Maintenant, vous savez pourquoi je vous ai rappelé ce que j'éprouvais pendant la soirée que nous avons passée ensemble à Craig Fernie. Si vous pensez, si vous parlez mal de moi, je n'ai pas le droit de vous en blâmer. Je suis innocente, et pourtant c'est ma faute. Des larmes insensées obscurcissent mes yeux. Il faut que je m'arrête et que je me repose un moment. Je me suis assise à la fenêtre et j'ai regardé les gens qui vont et viennent dans la rue. Tous me sont étrangers, mais leur vue me calme. Le bourdonnement de la grande cité m'a redonné du cœur et je continue. Je ne puis prendre sur moi d'écrire à l'homme qui nous a trahis tous les deux. Toute déshonorée et toute brisée que je suis, quelque chose encore m'élève au-dessus de lui. S'il venait repentant en ce moment, et s'il m'offrait tout ce que le rang, la fortune et la considération publique peuvent donner, je préférerais rester ce que je suis plutôt que devenir sa femme. Laissez-moi vous parler de vous, et dans l'intérêt de Blanche, laissez-moi vous parler de moi-même. J'aurais dû, sans doute, attendre à Windygates pour vous voir et vous dire immédiatement ce qui était arrivé. Mais j'étais faible et malade, et le choc produit sur moi par les paroles que je venais d'entendre fut si violent que je m'évanouis. Quand je repris connaissance, je fus si épouvantée en pensant à vous et à Blanche qu'une sorte de folie s'empara de moi. je n'avais qu'une idée, l'idée de m'enfuir et de me cacher. Mes idées s'éclaircirent et se calmèrent pendant mon voyage jusqu'à cette ville, et à mon arrivée, je fis ce qu'il y avait, je l'espère et je le crois, de mieux à faire. Je consultai deux hommes de loi. Ils différèrent d'opinion sur la question de savoir si j'étais mariée ou non, d'après ce que décide en pareille matière la loi en Écosse. Le premier dit oui, le second dit non, mais me conseilla de vous écrire immédiatement et de vous dire dans quelle position vous étiez placé. J'essayai d'écrire le même jour et je tombai malade, ainsi que vous le savez à présent. Grâce à Dieu, ce retard est sans conséquence. J'ai demandé à Blanche, à Windiges, quand vous deviez vous marier, et elle m'a répondu que ce ne serait pas avant la fin de l'automne. Nous ne sommes qu'au 5 septembre, vous avez du temps devant vous. Dans notre intérêt à tous, mettez-le donc à profit. Qu'allez-vous faire ? Allez immédiatement chez Sir Patrick Lundy et montrez-lui cette lettre. Suivez ses avis, quoi qu'il puisse en arriver pour moi. Je répondrai mal à votre bonté, je trahirai l'amour que je porte à Blanche si j'hésitais à braver toutes les révélations nécessaires dans votre intérêt et dans le sien. Vous avez été en cette circonstance si généreux et si bon. Vous avez gardé mon honteux secret, j'en suis sûr, avec la fidélité d'un homme d'honneur ayant à sauvegarder la réputation d'une femme. Je vous relève de tout cœur de votre engagement, cher monsieur Brinkworth. Je vous supplie à genoux de vous considérer comme libre de révéler la vérité. Je ferai de mon côté toutes les déclarations confirmatives qui pourraient être nécessaires dans les circonstances où nous sommes, quelque publique qu'elles puissent être. Reconquérez votre liberté à tout prix, et alors, mais seulement alors, rendez un peu d'estime à celle qui a fait peser sur vous le fardeau de ses chagrins et obscurci votre vie de l'ombre de sa honte. Je vous en prie, ne voyez pas en tout ceci un sacrifice de ma part. C'est un moyen de rendre de la tranquillité à mon esprit, et voilà tout. Qu'est-ce qui me reste dans la vie ? Rien que la nécessité de vivre. Quand je pense maintenant à l'avenir, mon esprit passe par-dessus les années que je dois passer en ce monde. Parfois, j'ose espérer que la divine bonté du Christ, qui plaida autrefois sur la terre pour une femme comme moi, plaidera du moins quand la mort m'aura prise pour faire admettre mon âme au ciel. Parfois, j'ose espérer voir ma mère et celle de Blanche dans un monde meilleur. Leurs cœurs étaient unis comme ceux de deux sœurs tant qu'elles furent sur terre et elles ont légué leur mutuel amour à leurs enfants. Oh, ce n'était pas en vain que j'avais promis d'être une sœur pour Blanche. La dette que j'ai contractée envers elle est la dette de reconnaissance de ma mère. Et que suis-je maintenant ? Un obstacle au bonheur de sa vie. Me sacrifier à ce bonheur, c'est la seule chose qui me reste à faire, je n'ai nul souci de moi-même. Dites toute la vérité sur moi, appelez-moi pour en porter témoignage, aussi publiquement qu'il vous plaira. J'ai attendu quelques instants, m'efforçant de penser avant de clore ma lettre et de chercher dans ma tête ce que je pouvais encore avoir à vous écrire. Je ne me trouve plus d'autres devoirs à remplir que celui de vous apprendre comment vous pourrez me trouver si vous désiriez m'écrire ou si vous jugiez nécessaire de me revoir. Un mot avant d'aborder ce sujet. Il m'est impossible de deviner ce que vous ferez ou ce que d'autres vous conseilleront de faire quand vous aurez reçu ma lettre. Je ne sais même pas si vous n'avez pas appris déjà quelque chose par Geoffrey de Lesmaines. Dans ce cas, ou dans celui où vous croiriez devoir mettre Blanche dans la confidence, je vous suggère l'idée de m'envoyer une personne en laquelle vous puissiez avoir confiance. Si cela n'était pas possible, ne me voyez du moins vous-même qu'en présence d'un tiers. L'homme qui n'a pas hésité à nous trahir tous deux n'hésiterait pas à nous calomnier encore s'il en trouvait l'occasion. Dans votre propre intérêt, évitons avec soin de donner aux langues menteuses aucun prétexte pour attaquer la place que vous occupez dans l'estime de Blanche. N'agissez pas de manière à vous mettre encore dans une fausse position. Faites, oh, faites qu'un sentiment indigne d'elle ne s'éveille pas dans l'aimante et généreuse nature de votre fiancée. Cela dit, je puis maintenant vous indiquer les moyens de communiquer avec moi après que j'aurai quitté Glasgow. Vous trouverez, sur la feuille de papier ci incluse, le nom et l'adresse du second des deux hommes de loi que j'ai consultés. Il est convenu entre nous que je l'informerai par lettre du lieu où je m'arrêterai, et il est autorisé à vous communiquer ce renseignement si vous le lui demandez, vous et Sir Patrick Lundy, soit personnellement, soit par lettre. Je ne sais pas encore où je trouverai un refuge. Rien n'est certain, mais ce que je sais, c'est que je ne pourrai pas aller bien loin dans l'état de faiblesse où je suis. Si vous vous étonnez que je me déplace avant de me sentir plus forte, je ne puis vous en donner qu'une raison qui pourra vous paraître insuffisante et fondée sur des craintes exagérées. J'ai été informé qu'il avait été inséré à mon sujet dans les journaux de Glasgow pendant ma maladie à l'hôtel, un avis qui me représentait comme une étrangère en danger de mort. Mes tourments m'ont peut-être rendu déraisonnablement soupçonneuse. J'ai peur de ce qui peut arriver si je reste ici après que le lieu de ma résidence a été rendu public. Aussi, dès que je pourrai me mouvoir, je partirai en secret. Je serai satisfaite si je puis trouver le repos et la tranquillité dans quelques petites villes des environs de Glasgow. Vous n'avez pas à vous inquiéter de mes moyens d'existence. J'ai assez d'argent pour pourvoir à tous mes besoins et si ma santé se rétablit, je connais les moyens de gagner ma vie. Je ne vous charge d'aucun message pour Blanche, je ne l'ose pas jusqu'à ce que tout soit terminé. Attendez qu'elle soit votre heureuse femme et alors vous lui donnerez un baiser et vous lui direz que c'est de la part d'Anne. Essayez de me pardonner, cher monsieur Brinkworth. Je vous ai tout dit. Votre bien reconnaissante, Anne Sylvestre. Sir Patrick déposa la lettre sur la table avec un véritable sentiment de respect pour la femme qu'il avait écrite. Un peu de l'influence personnelle qu'Anne exerçait plus ou moins sur tous les hommes qui se trouvaient en contact avec elle semblait se communiquer au vieux légiste par l'intermédiaire de cette lettre. Ses pensées s'égarèrent, loin de la sérieuse et pressante question, loin de la situation menaçante de sa nièce, pour passer dans une région de méditation purement spéculative, dont Anne était l'unique objet. Quelle infatuation, se demanda-t-il, a pu mettre cette noble créature à la merci d'un homme tel que ce Geoffrey de Lemain ? Nous nous sommes tous trouvés, à une époque quelconque de notre vie, aussi embarrassés que l'était Sir Patrick en cet instant. L'expérience nous a appris que les femmes se perdent par une impulsion irréfléchie pour des hommes indignes et que les hommes courent tête baissée à leur ruine pour des femmes indignes d'eux. L'institution du divorce n'a pas de raison plus principale d'exister chez nous. Et pourtant, chaque fois qu'un de ces cas de folie s'offre à nos yeux, nous sommes étonnés de trouver que l'homme et la femme ne se sont presque jamais choisis l'un et l'autre pour des motifs sensés et avouables. Nous sommes toujours assez naïfs pour attendre de la passion qu'elle agisse d'après des principes logiques et de la fragilité humaine égarée par l'amour qu'elle se défende du péril et de l'erreur. Demandez aux plus sages parmi les personnes du sexe d'Anne Sylvestre ce qui justifie, d'une façon rationnelle, le choix qu'elles ont fait de l'homme auquel elles ont donné leur cœur et leur vie. Vous leur poserez une question qu'elles n'ont jamais songé à se poser elles-mêmes. Il y a plus encore. Consultez votre propre expérience et dites-le franchement. Auriez-vous pu justifier vous-même le mouvement de votre cœur au moment où vous l'avez engagé ? Auriez-vous pu exposer sur le papier vos raisons d'aimer quand vous vous êtes avoué à vous-même que vous aimiez ? Et ces raisons supporteraient-elles un examen critique en supposant que vous les ayez formulées par écrit ? Sir Patrick abandonna ce sujet, désespérant de trouver une solution à un si dur problème. Il résolut sagement de réveiller son esprit en s'occupant des nécessités pratiques du moment. Il lui parut essentiel d'envoyer d'abord des excuses au recteur afin d'avoir sa soirée à lui et de la consacrer à réfléchir au plan de conduite qu'il devait tracer à Arnold. Après avoir écrit quelques mots à son partenaire au piquet, rejetant sur une affaire de famille l'obligation où il était de manquer à son engagement, Sir Patrick sonna. Le fidèle Duncan apparut et vit à l'instant sur le visage de son maître qu'il était arrivé quelque chose. « Envoyez un homme avec ce billet chez le recteur, » dit Sir Patrick. « Je ne puis dîner dehors aujourd'hui. Je mangerai un morceau à la maison. » « Je crains, Sir Patrick, si vous voulez bien m'excuser d'en faire la remarque, que vous n'ayez reçu de mauvaises nouvelles. »« Les plus mauvaises nouvelles possibles, Duncan. Je ne puis vous en parler maintenant. Restez à portée d'entendre ma sonnette et veillez à ce que personne ne vienne m'interrompre, personne, pas même l'intendant. Je ne puis le recevoir. » Après avoir mûrement réfléchi, Sir Patrick décida qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'envoyer un message à Arnold et à Blanche pour les rappeler en Angleterre. Il comprenait la nécessité de questionner Arnold dans les plus minutieux détails sur ce qui s'était passé entre lui et Anne Silvestre à l'auberge de Craig Fernie. En même temps, il lui paraissait désirable, dans l'intérêt de Blanche, de la laisser ignorer, pour le moment du moins, tout ce qui était arrivé. Sir Patrick triompha de cette difficulté avec son ingéniosité et sa promptitude de ressources habituelles. Il écrivit un télégramme à Arnold, rédigé dans les termes suivants. « J'ai reçu votre lettre et celle qui y était incluse. Revenez à l'ermitage aussitôt que vous le pourrez. Tenez encore la chose secrète pour Blanche. Dites-lui, comme raison pour revenir, qu'on a retrouvé la trace d'Anne Silvestre. » Duncan ayant été envoyé à la station avec ce message, son maître se livra au calcul de la question de temps. Arnold, selon toutes les probabilités, recevrait le télégramme le lendemain 17 septembre. Dans 3 jours, lui et Blanche pouvaient être attendus à l'ermitage. Durant cet intervalle de liberté, Sir Patrick aurait amplement le temps de se remettre et de voir ce qu'il y avait de mieux à faire dans les alarmantes conjonctures qu'il avait à affronter. Le 19, Sir Patrick reçut un télégramme l'informant qu'il pouvait espérer de voir arriver le jeune couple le 20 dans la soirée. Assez tard dans la soirée du 20, le bruit d'une voiture se fit entendre et Sir Patrick, de la porte de son appartement, entendit des voix familières dans l'antichambre. « Eh bien !» s'écria Blanche en l'apercevant sur le seuil de la porte. « Anne est-elle retrouvée ?»«
Pas encore, ma chère. »
« A-t-on de ces nouvelles ?»«
Oui. »«
Et j'arrive à temps pour être utile ?»«
Parfaitement à temps. Vous apprendrez tout demain matin. Allez quitter votre costume de voyage et descendez pour souper le plus tôt que vous le pourrez. »
Blanche l'embrassa et monta à l'étage. Sa beauté avait gagné au mariage. C'est ce que pensa Sir Patrick après le rapide coup d'œil qu'il avait jeté sur elle. Blanche lui semblait plus calme et plus posée. Il y avait dans son regard et dans ses manières des grâces nouvelles. Arnold, en revanche, paraissait moins à son avantage. Il était inquiet et tourmenté, sa position vis-à-vis de Miss Silvestre semblait obséder son esprit. Dès que la jeune femme disparut, il parla tout bas à Sir Patrick. « J'ose à peine vous adresser la question que je désire vous faire, » fit-il. « Si vous êtes fâché contre moi, je dois accepter votre colère. » « Mais dites-moi seulement s'il y a un moyen pour nous de sortir d'embarras. Y avez-vous pensé ?»«
Je ne suis pas assez sûr de moi pour pouvoir parler clairement et avec calme ce soir, » dit Sir Patrick.
« Qu'il vous suffise de savoir que j'ai songé au moyen de sortir de peine et attendez pour le reste à demain matin. » D'autres personnes, aussi impliquées dans le drame qui se préparait, avaient eu à songer aux difficultés passées et à calculer leur conduite à venir pendant le voyage de Blanche et d'Arnold et leur retour en Angleterre. Entre le 17 et le 20 septembre, Geoffrey de Lemain avait quitté les Cygnes pour gagner ses nouveaux quartiers d'entraînement, plus près de l'endroit où la course à pied devait avoir lieu. Le capitaine New Eden avait profité de son passage à Londres pour consulter ses sollicitors. L'objet de la conférence était de découvrir l'auteur d'une lettre anonyme adressée en Écosse qui avait eu l'audace de causer de sérieux ennuis à Mistress Glenarm. C'est ainsi qu'isolément, deux par deux, ils convergeaient, venant de divers points, vers le voisinage de la grande cité dans laquelle ils devaient se trouver tous réunis et se rencontrer face à face pour la première et la dernière fois dans la vie de ce monde.